Vous êtes sur RTL.
30.
RTL.
Je traînais les pieds des casseroles, je n'aimais pas beaucoup l'école.
Bonjour, c'est Olivia Ruiz. Je suis très heureuse de vous présenter mon tout premier roman, La commode au tiroir de couleur.
Le journal inattendu.
Quand l'énigmatique objet de notre convoitise est arrivé dans la maison de ma grand-mère, j'avais 4 ans. Cet événement est si frais dans ma tête que j'ai l'impression qu'il date d'il y a moins d'une heure. Avec mes cousins, on s'est enfiévrés 1000 fois en tentant de fourrer le nez dans cette commode, attirés comme des aimants à bêtises par l'arc-en-ciel de tiroirs, les petites clés sur chacun d'eux qui suppliaient d'être tournées, le métal doré qui renforçait les angles pour nous les rendre plus inaccessibles encore.
Je n'aime toujours pas les cas.
12h30, 13h30.
Écorcher mon visage, écorcher mes genoux, écorcher mon...
Olivia Ruiz est l'invitée du journal inattendu sur RTL.
Bonjour Olivia Ruiz.
Bonjour, c'était tout doux, c'était très joli, c'était... votre montage.
Bah, oui, mais c'est
sûr. La même ambiance qu'avec Etchebest.
Ah, c'est autre chose.
Un peu plus doux.
Merci beaucoup de prendre les commandes de Journal Inattendu pour nous présenter votre tout premier roman, La commode au tiroir de couleurs. L'exil, l'amour, les bonheurs, les drames, les désespoirs à travers les secrets d'une grand-mère bien gardée au fond d'un tiroir, des tiroirs. Et même si c'est un roman, il y a forcément beaucoup de vous dans ces histoires ou ces personnages. Vous, justement, on va en parler avec votre invité qui vous connaît vraiment très très bien, Mathias Malzieu, le chanteur de Dionysos, avec qui vous avez tracé un bon bout de chemin. Vous continuez d'ailleurs d'écrire cette histoire. Son film Une sirène à Paris, sorti une première fois juste avant le confinement, revient sur les écrans. Alors on va essayer de faire une émission à votre image, vos choix musicaux, des extraits de films, une surprise à la fin, comme dans chaque émission, avant 13h30. Dans un instant, les infos, que vous pourrez même commenter si vous le voulez. Mais avant cela, comme chaque invité, il faut commencer l'émission en vous tirant le portrait.
Eh bien, c'est parti. Je suis un petit bout de femme française d'origine espagnole, méditerranéenne, jusqu'au bout des griffes. Oui, je suis entière, épicurienne, et une louve pour mes petits, entre guillemets. Alors, gare à celui qui touchera un cheveu de quelqu'un que j'aime. J'ai une passion pour l'être humain, ses joies, ses fêlures, ses forces, ses blessures. Alors j'en fais des histoires, que je chante, que je danse, que je filme, que j'écris, que je raconte.
Méditerranéenne jusqu'au bout des griffes. On va prendre le soleil jusqu'à 13h30. C'est le journal inattendu d'Olivia Ruiz avec l'actualité pour commencer. L'actualité de ce samedi 27 juin, c'est ce décret qui suscite la colère des défenseurs de la cause animale. Paru le 17 mars, juste après le confinement, il autorise les particuliers à vendre leurs chats ou leurs chiens à des laboratoires. Je rappelle que c'est aujourd'hui la journée mondiale contre l'abandon des animaux de compagnie. Un réseau de trafiquants d'or démantelé dans l'est de la France, 14 mises en examen. Un réseau approvisionné par des cambriolages dans tout le pays. Une spectaculaire saisie de cartouches de protoxyde d'azote dans l'Aisne. Plus de 5000 des siphons de cuisine détournés de leur usage pour leurs effets euphorisants. Le phénomène prend de l'ampleur en France. Il n'y a aucune interdiction juridique et pourtant les dangers sont bien réels. La reprise de l'épidémie de coronavirus aux États-Unis. Du coup, deux États, le Texas et la Floride, prennent de nouvelles mesures de restriction et de confinement. Et puis une conférence de presse de l'Olympique de Marseille cet après-midi, on en saura peut-être plus sur le projet de reprise. On terminera ce journal avec des graines contre la précarité alimentaire à Nantes depuis la semaine dernière. On plante un peu partout dans la ville, objectif nourrir plus d'un millier de familles dès la mi-juillet. Qu'est-ce que ça donne le ciel, Valérie Quintin ?
Ah bah ça bascule forcément, ça tourne à l'orage avec toute la chaleur qu'on a eue. Alors pour l'instant, c'est encore assez beau dans le sud et dans l'est du pays. On a à contrario une dégradation qui est arrivée par le nord-ouest. Ça nous donne quelques pluies assez localisées quand même entre le nord, le bassin parisien. Ça glisse jusqu'à la Vendée et ces pluies vont évidemment avancer un petit peu vers l'est au fil des heures. On va retrouver des orages en montagne ce soir sur les Alpes, les Pyrénées et la montagne Corse. C'est donc un soleil très très généreux quand même dans les régions les plus au sud avec des températures qui baissent un peu. 22 degrés attendus à Rennes. 24 à Lille, 25 à Paris, 27 à Bordeaux, 30 degrés à Mulhouse comme à Marseille et 32 à Lyon.
Voilà, et dans la région de Carcassonne, il fera chaud cet après-midi.
Comme souvent.
Bah, oui. Voilà. Et notez que d'ailleurs à 13h, c'est vous, Olivia Ruiz, qui nous donnerez la météo.
Chouette.
Le journal inattendu sur RTL.
Ah, le décret était passé complètement inaperçu lors de sa publication au journal officiel. Faut dire que c'était le 17 mars. Hein, on était vraiment deux jours après le début du confinement et on regardait sans doute ailleurs. Mais aujourd'hui, pour la journée mondiale contre l'abandon des animaux domestiques, les associations s'insurgent et parlent d'un retour en arrière inadmissible. Ce décret permet en effet à n'importe quel particulier de vendre son animal de compagnie, chien ou chat, à un laboratoire pour des procédures expérimentales, Laura Mauchi.
Oui, jusqu'à présent, seuls les élevages agréés où les animaux sont élevés uniquement dans le but de la recherche scientifique pouvaient vendre des chiens, des chats ou d'autres animaux. Maintenant, tous les élevages peuvent le faire. C'est un grand danger pour Réa Hutin, la présidente de 30 millions d'amis.
Ça va être la porte ouverte au vol. Vous allez laisser votre chien devant le supermarché, il sera volé. Dans vos propriétés, ils ne seront plus tranquilles parce que là, c'est de l'argent facile. Les animaux vont être volés et je ne comprends pas qu'on puisse oser faire une chose pareille.
Elle a peur qu'un business très lucratif ne se développe avec, par exemple, des adoptions en refuge pour ensuite revendre les bêtes. Le député En Marche, Loïc Dombreval, défenseur de la cause animale, a écrit à la ministre en charge de la Recherche, Frédéric Vidal.
Je rêve du moment où on saura ne pas expérimenter ces médicaments sur les animaux. Et je souhaite que la France s'engage beaucoup plus fortement pour faire en sorte qu'on trouve des méthodes pour remplacer les animaux par d'autres méthodes. Mais ça prend du temps et je souhaite que ce temps soit raccourci le plus possible et qu'on accélère.
Aujourd'hui, 9 Français sur 10 ne veulent plus d'expériences scientifiques sur les animaux.
Merci beaucoup, Laura Mauchi. Vous avez un animal de compagnie ?
Non, j'ai pas d'animal de compagnie parce qu'en tournée c'est un peu compliqué.
Oui, c'est vrai.
Mais j'ai grandi.
Avec des chiens ?
Bah oui, et c'est tellement fondateur, tellement riche pour un enfant de grandir auprès d'un animal. Moi j'avais une véritable petite sœur que j'ai gardée de ma naissance à mes 13 ans, donc ça me semble être une aberration cette histoire.
Et on vous a demandé de vous engager pour la cause animale ?
Ça m'est arrivé auprès de Raphaël Mesrahi. Ouais. Ben ouais, je suis allée plein de fois à sa nuit de la déprime, aux Folies Bergères, voilà. Il a même, il produit un champagne vegan aussi. Il est complètement à fond dans cette cause et on est plusieurs à être effectivement à côté de lui.
Sachez, Olivia Ruiz, qu'on ne peut pas parler de politique. Depuis minuit, c'est interdit dans les médias. C'est ce qu'on appelle la période de réserve avant le deuxième tour des municipales de demain. C'est une interdiction d'ailleurs qui s'applique aussi aux sites internet sur les plus de 30 000 communes de France. 4 827, celles qui n'ont pas élu leur maire au premier tour, vont donc voter demain. 16% des communes, 34% des électeurs. Le premier tour avait évidemment été marqué par une abstention massive avec le confinement. Plus de 55%, ce sera la grande inconnue demain. Vous pourrez suivre la soirée électorale sur RTL dès 18h et à partir de 19h autour de Thomas Soto. Encore deux informations avant de marquer une pause. Un coup dur pour les salariés de Sanofi, le groupe pharmaceutique qui a pourtant vu ses ventes dopées par la crise sanitaire, annonce 1700 suppressions d'emplois en Europe, dont un millier en France. La CFDT parle d'un plan social impensable avec des suppressions d'emplois qui n'ont pas lieu d'être. Et puis un énorme réseau d'orpailleurs cambrioleurs a été démantelé par les policiers de Dijon et Nancy. 14 personnes mises en examen, 11 placées en détention provisoire. Réseau approvisionné par des cambriolages perpétrés dans toute la France. C'était vraiment un système à l'échelle industriel, contrôlé par des familles issues des gens du voyage. C'est ce qu'explique le procureur de la République de Nancy. En fait, l'or était collecté, puis fondu, transformé en lingots et revendu en Belgique et en Allemagne avec un bénéfice de l'ordre de plus de 20 millions d'euros par an.
C'est romanesque.
Ah, c'est vrai qu'il y a presque une histoire à faire.
Mais
avec le fait de fondre.
Mais c'est ça. C'est très visuel. On a tout de suite des images assez fortes. Il faut soumettre
en même temps,
cette histoire à Costa Rica.
C'est un peu dur pour ceux qui en ont été victimes.
Mais évidemment. Bien sûr.
Allez, on va marquer une pause. Et puis dans un instant, on va parler de ce protoxyde d'azote qu'on trouve notamment dans les siphons de cuisine détournés de leur usage. Là aussi, on peut parler d'échelle industrielle. À tout de suite.
Le journal inattendu d'Olivia Ruiz
avec Vincent Parisot sur RTL.
Un mois et demi après Delish.
Le journal inattendu sur RTL avec Olivia Ruiz et Vincent Parisot.
Faut-il s'inquiéter du détournement de l'usage des cartouches de protoxyde d'azote, alors utilisées d'ordinaire dans des siphons de cuisine, mais qui, lorsqu'elles sont inhalées, donnent un effet euphorisant comparable à l'ivresse. Vous avez peut-être d'ailleurs déjà vu ces petites cartouches métalliques abandonnées après leur usage, disons, récréatif, souvent sur la voie publique. La police en a saisi 5500 hier chez un bailleur social de Soissons. Elles ont été saisies, mais il n'y a pas eu d'interpellation parce qu'il y a un vide juridique en la matière. Faute d'interdiction nationale, d'ailleurs, certaines mairies ont pris des arrêtés municipaux pour en interdire la vente aux mineurs qui l'utilisent. Car s'il n'y a pas d'interdiction, respirer ce gaz n'est pas sans danger, Thomas Dulin.
Alors il y a d'abord des risques immédiats quelques minutes après la prise, même si elle est unique. Asphyxie par manque d'oxygène, perte de connaissance, risque de chute ou encore de brûlure par le froid du gaz expulsé des cartouches. Il y a aussi les effets secondaires, nausées, vomissements, vertiges, maux de tête, perte de mémoire, sans compter les risques de détresse respiratoire pouvant entraîner la mort. Et puis à plus forte dose et avec des prises plus régulières, l'inhalation de protoxyde d'azote peut causer des séquelles irréversibles. Anémie, troubles psychiques et neurologiques graves avec atteinte du système nerveux et de la moelle épinière.
Merci Thomas Dulin. C'est vrai que ça se développe beaucoup, mais c'est pas nouveau non plus l'usage de ces cartouches de protoxyde d'azote.
Milieu des années 90, c'était extrêmement à la mode. On voyait ça dans des raves, on gonflait un ballon avec la cartouche et ensuite on respirait l'air du ballon.
Dans les concerts, vous savez si ça circule aussi? Non, pas trop. C'était
pas
plutôt
vraiment.
Dans les.
C'était
les
plutôt lié à l'électro, en tout cas, voilà, où se développaient beaucoup quand même les drogues dans ces années-là. Une musique fantastique aussi.
Oui, bien sûr. Allez, encore une info qui concerne les vols vers les États-Unis. Si vous aviez l'intention d'y aller, ces vols ne devraient pas reprendre à brève échéance. Les pays de l'Union européenne vont se prononcer aujourd'hui sur les voyageurs qui seront admis au sein de l'Union au 1er juillet. Liste qui inclut la Chine sous condition, mais qui exclut les États-Unis où l'épidémie se poursuit à un rythme élevé. 40 000 nouveaux cas pour la seule journée d'hier. La situation au Texas et en Floride inquiète beaucoup les autorités de ces deux États qui ont pris de nouvelles mesures de restriction. Par exemple, fermeture des bars, sauf pour les boissons à emporter. Et puis à Houston, au Texas, les habitants doivent rester chez eux, sauf nécessité impérieuse. Le confinement, Olivia, vous l'avez vécu avec votre garçon?
Oui, et dans le sud de la France, donc je fais partie des gens qui étaient
donc vous aviez un
vraiment
jardin
chanceux. Un jardin partagé, mais un mini-jardin quand même, une petite terrasse, avec vue chez le voisin, mais une petite terrasse quand même.
Vous l'avez bien vécu?
Non, pas du tout.
Non.
L'annulation de toutes les lectures musicales qu'on venait juste de monter, le redémarrage de la tournée Bouche-Cousue annulée aussi, reportée peut-être, toujours ce peut-être, comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Voilà. Donc non, j'ai eu un moral comme beaucoup, je crois, en dents de scie. Je me sentais vraiment aspirée par la déprime par moments. Et puis à d'autres moments, il fallait bien retrouver l'énergie pour le petit gars de 4 ans et demi qui, lui, était en pleine forme, donc voilà.
Il a compris d'ailleurs 4 ans et demi ce qui s'est passé, cette histoire de virus, qu'il fallait rester enfermé avec sa maman.
Alors moi je expliquais assez simplement, je lui ai dit les médecins sont débordés en ce moment, ils nous ont demandé à tous de faire très attention, parce que si on a des problèmes, et il s'est quand même cassé les deux poignets pendant le confinement, donc ma prévention a été extrêmement utile et efficace.
On termine par cette initiative de la ville de Nantes, pour lutter contre la précarité alimentaire. C'est à la fois simple et inédit, ça s'appelle Paysage Nourricier. Depuis la semaine dernière, des graines, des plants sont semés dans les jardins, les espaces au cœur de la ville, des potagers se libèrent et l'objectif c'est de produire dans un mois 25 tonnes de légumes. On écoute Patrice Gabart.
De gros tas de terreau et de compost inspirés des cultures en butte ont fait leur apparition la semaine dernière sur les pelouses d'un nouveau quartier près de la gare de Nantes, comme dans 49 autres lieux de plantation insolites. Franck Coutant du service des espaces verts de la ville de Nantes.
Dans toute la ville, on va retrouver 40 tomates, 40 pieds de courgettes, des choux, des patates douces, des courges et des betteraves. Il y a eu 10 000 plants potagers. Et ensuite, on a deux grands sites dans nos pépinières. Et là, on a planté 2 tonnes de pommes de terre, 3 000 courges et aussi des haricots secs. On espère récolter 25 tonnes de légumes.
Des potagers solidaires entretenus par les jardiniers de la ville avec le soutien des habitants et des associations de quartier ou d'entraide alimentaire. Catherine Davio du Centre communal d'action sociale.
Si les personnes qui récoltent ne sont pas elles-mêmes les bénéficiaires, et ce sera pour une grande partie le cas, ces récoltes iront dans des distributions alimentaires qui existent déjà sur les quartiers où on essaye de toucher les ménages qui sont en difficulté pécuniaire avant tout et donc avec des répercussions sur l'alimentaire.
Objectif affiché, aider 1000 familles avec 25 kilos de légumes pour chacune.
Merci pour ce reportage, Patrice Gabart. Ça fait du bien, ce genre d'initiative. Oh, en plus, il y a un côté très simple, finalement.
Mais
on plante.
Bien sûr. Eh bien oui, c'est facile. Et puis, les enfants adorent, justement, participer à ce genre de choses. C'est inspirant. Il faut
récolter
ce modèle.
Et c'est mais sans doute encore aussi meilleur quand on le récolte soi-même.
Mais bien sûr, c'est quelque chose, même pour nous, les adultes, de génial. Et puis, mettre les mains dans la terre. C'est quand même quelque chose que les petits Parisiens n'ont pas souvent l'occasion de faire et qui reconnecte, je trouve, pas mal.
La commode au tiroir de couleurs, c'est le premier livre, c'est un événement en fait littéraire, on peut le dire aujourd'hui. Il est signé Olivia Ruiz, on en parle dans un instant, à tout de suite sur RTL, une petite crêpe aux champignons peut-être.
Journal inattendu d'Olivia Ruiz avec Vincent Parisot sur RTL.
Intermarché. Détails sur toyota.fr.
Le journal inattendu sur RTL avec Olivia Ruiz et Vincent Parisot.
On l'appelait la femme de l'arabe, l'espagnol caminant sur les cantons arides. Elle l'aimait comme la mer aime l'arabe.
Serre son nom contre elle comme un talisman kabyle. Elle a fleuri son souvenir, même les jours de grêle. Son linge de lit était brodé de ses initiales. Elle pouvait rêver contre lui et prolonger leur idylle. Une de ces personnes discrètes.
Bon ben voilà, on commence par la famille.
Bah ouais, mais quand on a une famille pareille, elle mérite de commencer.
Exactement. Alors ça c'est Toan,
oui.
Anthony, votre petit frère, et vous l'accompagnez notamment sur ce titre, La femme de l'arabe, que vous avez choisi dans son dernier album. C'est le deuxième, je crois.
C'est ça.
Madre Méditerranéa, sortie d'ailleurs en plein confinement. Ça aussi, c'est un coup dur.
Un petit peu, oui.
J'imagine. Alors, on n'a pas encore ouvert le livre, qu'on est déjà finalement au cœur du sujet, parce que la famille, c'est le cœur du sujet. Votre sud natal, le poids de l'héritage familial, l'immigration. Mais je voudrais quand même encore dire un mot sur Toan, parce que je vous ai entendu dire que vous estimez que c'est lui le véritable artiste de la famille.
Le véritable auteur, c'est sûr. Je crois qu'il a une plume qui est très particulière. Et puis, cet aspect social dans son rap, qui découle du fait que ce soit un psychologue de profession qui travaille avec des mineurs isolés. Voilà, amène quelque chose, je pense, à un titre de cet album qui est un dialogue avec une de ces jeunes femmes avec lesquelles il travaille, Aminata, et qui est extrêmement fort. Il commence en disant « Je suis psychologue et dans cet endroit, tu peux parler. » Et puis, elle finit par dire « Mais en quoi tu vas m'aider ? Toi, t'as toujours tes parents et tes chemises bien repassées. » Et c'est vrai qu'on a beau être un utopiste et quelqu'un d'aussi engagé que mon frère, bien voilà, on se retrouve quand même à buter contre des faits inchangeables.
La commode au tiroir de couleurs, c'est donc votre premier livre, premier roman, publié chez C'est la Thèse. Autant le dire tout de suite, c'est une entrée réussie en littérature. Livre émouvant, passionnant. Les retours, comme on dit, on va dire les critiques, sont excellentes. Et pourtant, forcément, quand on s'est fait connaître avec la musique, avec les chansons, qui plus est, même si c'est très loin, avec la Starac, avec un premier livre, on se dit... on va m'attendre au tournant avec avec une carabine.
Oui, surtout moi qui suis une immense flippée. C'est pour ça que j'ai renoncé à l'écrire à peu près 25 fois pendant l'année où je l'ai écrit. Ouais. Et c'est pour ça que j'étais pas vraiment prête à le donner à des éditeurs. mais que j'ai eu la chance d'avoir près de moi une jeune femme qui s'appelle Olivia de Dieu le veut et qui est un peu coquine et excellente joueuse de poker, j'imagine, parce qu'elle a tenté le coup dans mon dos.
Ouais, elle a misé, elle a fait tapis et banco.
Et voilà. Et elle m'a juste mise en copie des mails d'éditeurs qui disaient on veut le livre.
Ouais. Et voilà. Donc. Et l'histoire a commencé, l'histoire de cette commode. À l'intérieur des tiroirs de cette commode, alors on va trouver une médaille de baptême, un acte de naissance, une clé, un foulard, un billet de train. Ce sont autant d'histoires cachées, secrètes, révélées comme les pièces d'un puzzle sur l'histoire, la vie de Rita, la grand-mère. Et c'est sa petite fille qui découvre petit à petit ce qu'il y a dans ses tiroirs.
C'est
elle
ça.
Vous ressemble quand même bigrement, cette petite fille, non?
Je sais pas si Rita me ressemble plus que l'héritière de la commode. Oui. Je sais pas si je ressemble plus aux autres personnages. Je pense que tous me ressemblent un peu, probablement en pire ou en meilleur.
Oui, parce que la toile de fond, c'est l'exil franquiste. Ça, c'est l'histoire de votre famille, côté maternel.
Des deux côtés.
Des deux côtés.
Ouais, j'ai juste un grand-père qui est français, qui est celui qui m'a donné mon nom, mon grand-père paternel.
Par exemple, la manière dont Rita parle de Franco ou certains autres, enfin, il y a d'autres personnages, on va pas y venir. C'est des choses que vous avez entendues, vous
On parlait pas de ça chez moi.
Ah.
Non.
C'était tabou.
Par contre, la volonté d'être plus français que les Français, ça c'est sûr que je la sentais chez moi. Elle n'était pas exprimée, mais je voyais bien qu'il fallait laisser les choses qu'on avait abandonnées ou qui nous avaient abandonnées le plus loin possible de cette nouvelle vie qui était la leur.
Ça veut dire que cette douleur de l'exil qui est obligatoire, enfin forcée, elle engendre des non-dits, elle engendre du déni, elle engendre des secrets.
Il me semble que d'abord dans toutes les familles, il y a du secret et il y a des non-dits et il y a des incapacités à transmettre dues au traumatisme et aussi à la culture. Donc chez moi, c'était aussi le cas. J'imagine que le traumatisme les a tous rendus muets, mais ce n'est que mon imagination, puisque d'un côté, effectivement, ma grand-mère paternelle, Rita, dès que je lui disais « parle-moi de l'Espagne », c'était les grandes eaux.
Ah, puis, tout de suite, ça pleurait,
voilà,
immédiatement.
Impossible de dire un mot. Elle a 87 ans, là, c'est la même.
De faire pleurer les gens.
Exactement, voilà. Comme dit Michel Campiche, le silence est le dernier refuge de la liberté. Et ça se respecte malgré tout. Et de l'autre côté, elle me disait « mais qu'est-ce que tu vas chercher? Arrête avec ça !» Laisse tomber, je vois pas ce que tu vas... Qu'est-ce que tu nous enquiquines avec tes trucs. Donc, pareil. Mais j'ai quand même insisté. Hein.
Je suis coriace. Bien sûr, on imagine.
Mais ça n'a pas suffi.
La semaine dernière, le philosophe sociologue Frédéric Lenoir était ici à votre place. Il vous a posé une question. Tiens, on l'écoute.
Bonjour Olivia Ruiz, c'est Frédéric Lenoir. Je suis très heureux et honoré de vous poser cette question parce que je vous aime beaucoup. Et j'aimerais savoir si le passage de l'écriture de chansons à l'écriture d'un roman vous a posé des difficultés particulières. Est-ce que vous concevez la même chose quand vous écrivez un roman? Est-ce que vous avez déjà l'histoire en tête avant de l'écrire? Ou est-ce que vous écrivez au fil de la plume? Comment s'est passée cette écriture?
C'est une super question. Je suis hyper flattée de la façon dont il me la pose, vraiment.
L'histoire, vous l'aviez en tête? Vous aviez tous les tiroirs
Alors, j'avais des plans. Ouais. Mais alors, le plan a changé presque à chaque chapitre. Et puis j'avais plein de notes. Et puis je me faisais virer à l'editing certains personnages aussi. Parce que les films disaient « Pardon, des jumelles qui arrivent au 9e chapitre, tu plaisantes. » Oh, mais vous allez voir, elles sont géniales. Eh ben, ce sera pour ton 2e livre. Donc voilà, ça s'est fait aussi au fil des relectures des gens qui m'entouraient. Et puis mon histoire, quelquefois, par exemple, quand arrive... le plus grand drame de la vie de Rita, lié à son fils Juan.
Voilà, on peut imaginer, quand on dit le plus grand drame de la vie, le plus grand drame qui puisse exister pour une mère,
voilà.
On imagine ce que c'est.
Et j'avais pas envie de l'écrire, sauf que j'avais la suite, et si il n'y avait pas quelque chose de dramatique qui se passait à cet endroit-là, ma suite perdait son sens, et mon démarrage aussi. Voilà. Par exemple, ce chapitre, rien que d'y penser, ma gorge se serre, parce que j'ai détesté l'écrire, j'ai fait que pleurer, mais il s'est imposé, pour le coup.
Vous pleurez en écrivant?
Oui. Et je pleure en lisant aussi, que ce soit les livres de Cali, de Nick Cave ou de Mathias Malzieu.
Ah bah tiens, ça tombe bien. Le commode au tiroir de couleurs, Olivia Ruiz est l'invitée de ce journal inattendu. Elle nous parlait de Mathias Malzieu, le chanteur de Dionysos, le réalisateur d'Une sirène à Paris, avec qui, je le disais, vous avez quand même tracé un bon bout de chemin. Il sera avec nous dans un instant. A tout de suite sur RTL. On est à l'heure avec Olivia Ruiz. Il est 13h02.
Le journal inattendu d'Olivia Ruiz.
13h, les titres de l'actualité. Vincent Parizeau.
Avec ce décret qui suscite la colère des défenseurs de la cause animale, paru le 17 juin, c'est-à-dire juste après le début du confinement, il autorise les particuliers à vendre leurs chats ou leurs chiens à des laboratoires. C'est aujourd'hui la journée mondiale contre l'abandon des animaux de compagnie. Un réseau de trafiquants d'or démantelé dans l'est de la France, 14 mises en examen, 11 détentions provisoires, un réseau approvisionné par des cambriolages dans tout le pays. L'or était ensuite fondu, transformé en lingots et vendu en Belgique et en Allemagne. Une spectaculaire saisie de cartouches de protoxyde d'azote dans l'Aisne, plus de 5000, des siphons de cuisine détournés de leur usage pour leurs effets euphorisants. Le phénomène prend de l'ampleur, il n'y a aucune interdiction juridique, mais les dangers sont réels. La reprise de l'épidémie de coronavirus aux États-Unis, du coup deux États, le Texas et la Floride, prennent de nouvelles mesures de restriction et de confinement. Et puis une conférence de presse de l'Olympique de Marseille cet après-midi. On en saura peut-être plus sur le projet de reprise par des investisseurs du Moyen-Orient. Enfin, le temps pour cet après-midi. Olivia Ruiz, vous n'êtes pas Miss Météor, mais Miss Météo.
C'est ça. Il fera beau cet après-midi de la vallée du Rhône à la Méditerranée. Les nombreux nuages et quelques orages laisseront également passer des éclaircies des Pyrénées jusqu'au nord-est. Ailleurs, en revanche, le ciel sera bien nuageux et les averses fréquentes, notamment entre le nord et le nord-ouest du pays. Les températures iront de 19 degrés à Cherbourg à 32 à Lyon. Il fera 25 à Paris, à Biarritz et à Tours et 29 dans le plus beau village français.
Ouais, peut-être même du monde.
Marseillette, peut-être même du monde.
Marseillette, ça vous manque ou vous y allez souvent?
J'y vais souvent quand même. Mmh. Oui, oui, non, c'est mon petit coin. À moi, il n'y a rien de spécial ce village finalement, si non. Ce n'est qu'il sent bon le thym, le romarin, la garrigue.
Le journal inattendu sur RTL. Avec Olivia Ruiz et Vincent Parizeau.
Oh, ma sirène de salle de bain, dompteuse de canard en plastique. Il faudrait bien que tu m'expliques pourquoi je me sens si bien.
Tu es en train de tomber amoureux de moi, comme tous les hommes avant toi qui ont entendu ma voix.
Oh, ma peine.
Une sirène à Paris, c'est Dionysos. Olivia Ruiz, vous avez invité Mathias Malzieu, le chanteur du groupe Dionysos, réalisateur donc du film Une sirène à Paris, qui ressort sur les écrans parce qu'il était sorti au moment du confinement. On va en parler avec lui dans un instant. Et puisque vous ne vous en êtes jamais caché, il est votre ex-compagnon.
Bien
aussi,
sûr.
Et vos collaborations continuent à être fréquentes. Mm-hmm. Est-ce que ça veut dire que vous n'arrivez pas à désaimer? Est-ce que ça veut dire que quand on aime, bah, c'est pour toujours, même si on n'est plus ensemble? Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas forcément revenir.
C'est
pas facile de vous poser
général,
cette question-là parce qu'il est en face de vous. Oui, je sais.
Non, je crois que c'est particulier, la relation qui nous unit. Je ne sais pas si c'est une généralité dans ma vie. En tout cas, là, c'est sûr que c'est une évidence. Et puis, ce qui est dingue, c'est que je ne sais plus combien d'années ça fait qu'on se connaît.
16.
Mais à chaque fois, je suis surprise et bluffée. Quand j'étais voir La Sirène, bah forcément, quand on connaît bien quelqu'un et puis qu'on connaît une histoire et qu'on en a écouté les chansons, on a peur de pas être embarqué. Et alors, j'ai ri, j'ai pleuré. Il faut absolument que tout le monde aille voir ce film. C'est bon pour le cœur.
C'est dit. Bonjour, Mathias Malzieu.
Bonjour.
Je le disais, donc, chanteur de Dionysos, écrivain, scénariste, réalisateur. Le film était sorti quelques jours avant le confinement. C'est un film, alors, est-ce qu'on peut dire fantastique, onirique?
y a, à part la sirène, finalement, il n'y a rien de fantastique, c'est, Mathias, si
ouais,
tu m'arrêtes.
C'est ce qu'ils appellent du réalisme magique.
Mmh. Tiens,
on est presque sur... Ouais, tout est réel, sauf la sirène.
Oui, alors la sirène, elle est, oui, effectivement, puisque...
Elle est métaphorique, mais ouais, voilà. Ouais.
Mais il y a quand même cet univers, on va y revenir. On écoute un extrait de la bande-annonce, c'est avec Nicolas Duvauchel, Marilyn Lima, Rossi de Palma et Checky Cario, entre autres.
Et Romane Boranger.
Et Romane Boranger.
D'habitude, les hommes qui entendent ma voix tombent si follement amoureux de moi que leur cœur explose. Vous allez mourir, comme tous les autres.
Tous.
Tous. Vous avez mal au cœur?
Non, pas du tout, pas du tout.
Il va exploser, ce cœur. Et cette fois pour toujours.
Comment ça fait, l'amour?
C'est comme de la joie. Ça pique. Très fort.
Je suis tellement contente de vous faire aucun effet.
Dommage que vous partiez maintenant, quand même. Parce que moi, j'étais immunisé. Et si vous restiez avec moi?
Non, c'est trop risqué.
Alors, Mathias Malzieu, ce film, c'est en fait l'adaptation du roman que vous aviez écrit et publié l'an dernier, Histoire d'un homme usé d'avoir trop aimé, finalement. Oui. C'est un peu ça, et qui rencontre une sirène au cœur de pierre.
Tout à fait.
Cette histoire, vous l'aviez en vous depuis un certain temps. Comment elle est née?
Elle vient de loin, celle-là. Elle vient de loin. Elle vient d'un moment où moi, j'ai été donc hospitalisé il y a 5 ans. Greffé de la moelle osseuse, 11 semaines en chambre stérile. Et là, en fait, j'ai travaillé à rêver au retour à la vie normale. Ouais. Et ma vie normale à moi, j'ai eu la chance qu'elle soit extraordinaire parce que je travaille à mon rêve tous les jours, raconter des histoires, qu'elles soient chantées, filmées ou écrites. Et du coup, j'avais envie d'une ultra vie. J'avais besoin de rattraper le temps, en fait.
Quand il vous arrive ce qui vous est arrivé, il y a une vie d'après. On parle aujourd'hui beaucoup du monde d'après, mais quand il arrive un coup très très dur comme il vous est arrivé, la vie n'est plus pareille.
Bah, il y a un syndrome de survivant. Donc moi, j'étais déjà hyperactif et hypersensible, et en fait, ça m'a rendu pire et mieux. Du coup, j'ai eu besoin d'accoucher de triplé pour avoir la sensation de remonter le temps et de rattraper ces 2 ans qui finalement ne sont pas perdus, parce que j'ai appris beaucoup de choses, mais où j'ai été arrêté dans mon élan et dans mon appétit de choses et de vie. Donc j'ai écrit le livre en même temps que le scénario. Donc c'est pas vraiment une adaptation, parce que j'écrivais vraiment les deux en même temps, en parallèle. Et en même temps, les chansons du personnage. Ce qui me permettait à la fois d'incarner, donner des indices aux comédiens aussi sur la façon dont ils allaient intégrer leur personnage. Et c'était super.
Ce qui a donné
joyeux.
Cet album de Dionysos, Surprisier.
Ouais.
Parce que Surprisier, c'est un métier.
Oui.
C'est un beau métier, ça.
En fait, oui, c'est... ça vient d'une histoire vraie, en fait. C'est-à-dire que moi, mon père a perdu sa mère, Deuxième Guerre mondiale. Il avait 4 ans et il a dû être gardé par la grand-mère en zone occupée. Donc, il a traversé la ligne de démarcation caché dans une charrette de foin. Et il était gardé par cette grand-mère qui avait une épicerie. Ça ressemble presque un petit peu, hein, ça fait presque des résonances avec le livre d'Olivia, dans un autre contexte. Mais il y a la question de l'exil, de la famille et de comment on se protège et comment on résiste. Et en fait, il y avait dans cette épicerie, c'était une fausse épicerie qui servait en fait à cacher des résistants. Et comme il a eu des rapports avec ses résistants, je me suis amusé en fait à imaginer que ses résistants essayaient de lui rendre la vie plus belle à lui, à savoir lui faisaient des surprises, parce que c'était un semi-orphelin qui était caché, voilà, en plein blitz, etc. Ouais. Et donc j'ai inventé ce principe de surprisier qui était des résistants qui, alors qu'ils étaient dans un moment de résilience obligatoire, étaient créatifs, et ça a été le début de cette histoire.
Alors c'est un film d'univers, d'atmosphère. On pense quand même, j'avais vu Jacques et la mécanique du cœur. Oui. Alors évidemment, on fait forcément une référence à Tim Burton ou à Caro et Jeunet. C'est une filiation qui...
Ah oui, je les adore.
Cette filiation, c'est une bonne filiation.
J'ai une petite anecdote marrante là-dessus. Ouais. D'ailleurs, j'avais été... invité dans une radio concurrente, comme on dit.
Ça existe. Ouais.
Pour l'expo de Tim Burton. Ouais. Et en fait, Jeunet était invité aussi. Et moi, j'avais le trac de rencontrer Burton et Jeunet. Mais j'ai eu un peu moins le trac parce que je voyais que Jeunet était impressionné de rencontrer Burton.
Oh, ouais. C'était charmant.
Il y a une espèce d'équilibre qui s'est créé.
Et Burton, alors, il était très impressionné de rencontrer Mathias Malzieu.
Il n'était pas très impressionné.
J'imagine que vous avez été un des premiers lecteurs, en tout cas,
Alors je l'ai lu en plusieurs fois. C'est-à-dire que moi, j'ai reçu des versions pas terminées que j'ai lues par bout sur l'ordinateur.
Et vous lui faisiez des commentaires ?
Je me permettrai pas parce que finalement, elle a surtout besoin de que d'elle pour écrire ce livre et pour ses chansons. Ce qui est, moi, j'ai eu la chance à l'époque, avant même de livre, Olivia n'a jamais eu de besoin de personne pour faire quoi que ce soit. Mais à un moment donné, elle a eu envie de moi. Et ça, c'est formidable. Et sur le livre, donc j'ai lu par petits bouts. Et là, je me suis fait le plaisir de l'avoir, d'avoir vraiment son livre édité entre les mains pour de vrai, et de le lire quasiment d'une traite en 2-3 jours. Je l'ai terminé hier vers 4h du matin.
Génial. Donc là, aujourd'hui, on a le livre d'Olivia. Il y a votre film donc au cinéma. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant de reprendre la tournée avec Dionysos ?
Ouais, bien sûr, et continuer d'être en liberté.
C'est pour quand ?
Si tout va bien, on rattaque en octobre.
Bon bah très bien, on va vivre de grands moments comme ici dans le grand studio RTL en 2016. Merci beaucoup, Une sirène à Paris
merci
sur les écrans. Merci Mathias.
J'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'étais. Et j'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse. Qu'a griffé mon dos, ma peau s'est transformée en pyrograveuse.
RTL, le journal inattendu.
Seigneur.com. Olivia Ruiz est l'invitée du journal inattendu sur RTL.
Just grows and grows. With every sigh, I become more mad about you. All lost without you. And so it goes.
Alors voilà d'inattendu, hein, y compris pour Olivia Ruiz qui me disait pendant la musique, j'avais presque oublié ça.
Complètement, pourtant j'avais adoré ce projet avec le Red Star Orchestra, le Big Band de Saint-Ouen.
Ouais. C'était en 2012.
Oui, qui est dirigé par un très grand musicien qui a été à mes côtés pendant plusieurs années, qui s'appelle Joan Mirand.
Ouais.
Et c'était un projet un peu fou. Et un peu, complètement à l'arrache, sans argent, et on s'est jeté là-dedans. Et finalement, quelques années plus tard, Benjamin Lacombe a récupéré ce disque pour le mettre dans un conte qu'on avait fait tous les deux qui s'appelait Swinging Christmas.
Ouais.
Donc il a eu deux vies.
De toute façon, vous n'êtes jamais très loin du jazz.
J'y connais rien, mais j'aime ça.
Vous avez repris Nina Simone.
Oui, c'est vrai.
Et il y a quand même voilà, un univers jazz. Ce disque n'était sans doute pas seulement une parenthèse. Albert, comme revenir en espagnol, c'est aussi un spectacle. Je crois que vous avez joué à Chaillot en 2016 sous la direction de Jean-Claude Galota. Déjà spectacle musical sur vos origines ibères, sur le périple des grands-parents exilés en France dans les années 30. C'était déjà un peu le livre finalement.
C'était presque un préquel effectivement du livre. Il y a des notes qui m'ont servi pour les deux.
Mais tout
objets.
Ça, c'est le cœur de votre message.
C'est notre boulot. Hein. Bolbert, c'était danser.
Ouais.
Donc moi, il m'a fallu devenir un petit bout de danseuse en 4 mois. Heureusement que la compagnie Émile Dubois, Jean-Claude Galota a été derrière moi parce que.
Vous chantiez en direct
Je dansais. Pendant 1h15 non-stop, les deux à la fois.
Ouais.
J'avais des petits breaks où je n'avais qu'à danser pendant que ma voix off racontait l'histoire. Mais je vous jure que je me suis demandé pourquoi j'avais accepté un truc pareil à un moment donné en me disant oh, j'y arriverai jamais. Puis ben voilà, finalement.
Le photographe des 60s, Jean-Marie Perrier, était ici même, Olivia Ruiz, il y a 2 semaines. Et lorsqu'il a su que vous veniez, il a absolument tenu à vous poser une question. Alors on l'écoute.
Bonjour Olivia Ruiz, c'est Jean-Marie Perrier. Écoutez, je suis très content de pouvoir vous dire que j'ai adoré votre livre. Je trouve que c'est un livre vraiment merveilleusement écrit et surtout c'est un livre vivant. Donc la question que j'ai à vous poser c'est est-ce que vous croyez vraiment qu'il est utile de sortir de l'enfance ?
Waouh !
Ça, c'est une vaste question.
Est-ce
hein.
vraiment utile? Est-ce qu'on ne peut pas finalement rester enfant toute sa vie?
On va dire que par zone, on peut le rester. Et puis sur d'autres...
Quand on devient maman, c'est compliqué.
Voilà, c'est ça. Là, c'est quand même... J'en parle beaucoup dans la commode de la maternité. Mmh. Je dis que devenir maman, c'est prendre un pavé en pleine tête, même si c'est un pavé lancé du plus bel élan et du plus beau geste. Donc probablement qu'une immense partie de moi a gardé l'immaturité et la capacité d'émerveillement, mais l'autre au contraire est pleine d'angoisse d'adulte, vraiment.
Et le sentiment de révolte face à l'injustice, au racisme, il est permanent chez vous? Vous êtes tombée dans la marmite quand vous étiez petite?
Oui, je crois que je suis une écorchée vive, révoltée. Je me suis calmée peut-être un peu, ça passe moins par la colère, mais bien sûr, j'ai beaucoup de mal à gérer une situation qui raconte l'injustice.
Je voudrais qu'on écoute un court extrait de film que vous avez choisi, c'est Bernie d'Albert Dupontel, film devenu culte, film déjanté sur un orphelin jeté à la poubelle à la naissance. À la fin, il est avec une jeune femme, ils sont cernés par la police.
Debout, vite. On se casse. Il y a du monde, vite.
Ils vont trouver, ils sont forts, ces enculés.
Merde, trop tard.
Déguisé en flic. Sales enculés, c'est bien foutu leur combine.
La société qui est bien foutue. Elle met des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. Ah.
La société, elle est bien foutue, elle fout des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître.
Ouais, c'était vraiment pour aller chercher la petite bête, parce que dans le contexte actuel, voilà.
C'est un peu là que je voulais vous poser la question.
Bien sûr qu'il y avait un peu d'humour noir dans le fait de choisir cette réplique. Mais non, je suis hyper fan de Dupontel, au même titre que Mathias. Ce film, je me rappelle de l'avoir montré aux Américains qui produisaient mon disque et de les avoir complètement
Ils n'ont pas du tout comprendre.
Ils ont fini par rentrer dans le truc, mais c'est vrai que souvent, j'ai montré ce film à l'étranger avec beaucoup de petits amusements et de plaisir, parce que c'est un univers qui me semble n'exister nulle part ailleurs. Et moi, je suis très mauvais public pour les films censés être drôles, et Dupontel réussit à me faire mourir de rire, et ça, je pense que j'aurai une éternelle gratitude envers cet homme pour ça.
Donc on n'en rajoute pas sur le climat anti-flic.
Bien sûr que non, c'était vraiment c'était pour la blague.
Vous avez joué un flic d'ailleurs dans un téléfilm pour France 2, État d'urgence.
Une flic aussi attachante que détestable, c'est ça que j'aimais bien dans ce rôle, c'est qu'elle tabasse un mec alors qu'il n'a pas du tout mérité, donc elle raconte une réalité, mais elle est aussi complètement dépassée par ce qu'on lui demande, et elle ruine sa vie de famille, et voilà, les deux positions s'affrontent sans aucun parti pris. J'aimais bien que ça amène une réflexion, c'est pour ça que je me suis engagée dans ce rôle qui était assez prenant aussi.
Les multifacettes, multifaces d'Olivia Ruiz, la commode au tiroir de couleurs. Le livre est sorti chez J.C. Lattès. Je vous propose de marquer une petite pause et de vous faire une petite surprise.
Chouette.
Olivia Ruiz est l'invitée du journal inattendu sur RTL.
Le journal inattendu d'Olivia Ruiz avec Vincent Parisot sur RTL.
Dommage, parce qu'il y a des chœurs formidables à entendre. On est un petit peu pris par le temps. Electra Lane, groupe féminin et féministe. C'est aussi pour ça que vous l'avez choisi.
Oui, et parce que cette chanson a accompagné toute une partie de ma vie, puisque c'était une de celles que je choisissais pour mes saluts.
Ouais.
Et elle a une émotion particulière, mais effectivement, ce groupe est méconnu en France, mais a vraiment Electra
Lane. Voilà, allez écouter ça. Ce morceau date de 2003. C'est l'année de votre premier album. Et ben, je peux vous dire que cette année-là, en 2003, vous connaissiez déjà très bien l'invité surprise qui est au bout du fil. Invité surprise qui a dû mettre quelques centaines de kilomètres entre vous. Dernièrement, vous n'avez pas une idée. Non. Bonjour
Elle
Myriam
pas
Canou.
Un peu métissée, cette idée.
Bonjour Myriam Canou.
Bonjour.
Ma louloute d'amour.
Aujourd'hui, vous vous occupez d'art plastique, de street art, de photos également, je crois, à Biarritz. Mm-hmm. Mais votre rencontre remonte à 2001. Vous habitiez le même quartier, c'est ça? Racontez-nous cette histoire d'amitié de fille.
Tu fais, Mimi, ou c'est moi?
Fais.
Myriam, je la rencontre quand j'arrive à Paris, très vite, puisque je sollicite un de ses artistes pour écrire des chansons avec moi. À l'époque, elle est manageuse. Et un coup de foudre.
Un coup de foudre amical.
Véritablement.
Vraiment ça.
Voilà. Puis il y a une troisième avec nous, qui s'appelle Nitsan Sayag. Un peu chacune une couleur différente, des origines différentes. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe et qui ne s'est jamais défait depuis entre nous. Et Myriam est partie vivre à Biarritz après 20 ans côte à côte, à ne pas laisser passer plus de 2 jours sans se voir même une minute.
Ah oui.
Elle est ma coach de vie. Elle me met des coups de pied aux fesses. Elle me relève, elle m'a protégée des dizaines de fois de l'hostilité extérieure, vu de là d'où je venais. Je pense à une traversée de Bourges sous son blouson, parce que tout le public m'insultait en me disant « Que fais-tu à Bourges ?»
Ah oui ?
Toi de la Star Academy, et moi en larmes sous son blouson, et elle qui disait « On va y arriver !» Une machine de guerre. Ouais. Elle a fondé le Colorama Festival à Biarritz, qui est devenu une institution en quelques années, et elle est associée à l'artiste Grumps, de grand talent.
Myriam Canou, en deux mots, parce qu'on est déjà en retard, qu'est-ce qui vous a plu tout de suite chez Olivia?
Qu'est-ce qui m'a plu tout de suite chez Olivia? Bon, déjà on est très proches l'une de l'autre. On ressent les mêmes choses. Donc il y a eu il y a eu un coup de foudre en fait. Son côté engagé, comme moi, grande gueule.
C'est ça. C'est aussi deux grandes gueules qui se sont retrouvées. Vous avez lu le livre d'Olivia?
Bien sûr, vous avez lu le livre
et vous l'avez retrouvé complètement.
Évidemment, j'ai tout retrouvé, bien sûr.
Vous allez vous revoir bientôt?
Oui.
Bon, c'est noté. C'est noté, c'est promis. Écoutez, merci beaucoup, c'était juste un clin d'œil, mais on a bien compris, Myriam Canou, que vous comptiez beaucoup dans la vie d'Olivia Ruiz.
Et elle compte beaucoup pour moi aussi.
Merci,
j'habite
ma
dans la
pépette.
Classe, quand même, en passant.
Ah ben oui.
Le commode au tiroir de couleur, le premier roman d'Olivia Ruiz. Ouvrez vite ces tiroirs. Merci beaucoup, c'était
merci à vous, c'était un
plaisir.
Super bon moment.
Partagé. Merci aussi à Mathias qui était avec nous.
Et allez tous voir La Sirène à Paris.
Évidemment, c'est au cinéma. La semaine prochaine, pour la dernière de la saison, on sera avec Thomas Dutronc. Bon après-midi, dans un instant confidentiel consacré à Laetitia Hallyday.
RTL, le journal inattendu.
Coucou.